voilà, bah donc je vais vous parler d'Auguste Comte, des positivistes et Paris, et donc essayer de donner un petit aperçu en tout cas des relations qui ont pu exister entre le mouvement comtiste et la capitale, qui sont assez nombreux, assez riches, assez variés. Je vais commencer dans mon introduction par une petite représentation de Comte pour ceux qui n'ont pas été là aux dernières lectures. Alors ça peut peut-être paraître un peu redondant, mais je pense que c'est nécessaire toujours de rappeler quelques petites choses à ce sujet. Donc Auguste Comte, philosophe français du XIXe siècle, a intimement lié donc sa vie et son œuvre à Paris. Il est arrivé dans la capitale en 1814 pour entrer à l'école polytechnique et il ne va ensuite quasiment plus jamais quitter la capitale. Il va s'installer à partir de 1841 en plein quartier latin, rue Monsieur le Prince, et il répéta à plusieurs reprises son attachement à Paris, dont il voulait ensuite faire une sorte de nouvelle Rome, en fait, et la première capitale du positivisme. Auguste Comte donc est né à Montpellier en 1798, mort à Paris en 1857. Il est l'inventeur d'un système philosophique, le positivisme, dont la résonance fut importante à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Ce système donc se décline d'abord en une philosophie des sciences, car Comte estimait qu'une solide connaissance scientifique était nécessaire à la formation des futurs gouvernants. La grande idée du premier Comte, comme on va l'appeler, première partie de l'œuvre de Comte, fut d'élaborer une méthode scientifique dite positive pour réorganiser la société après les bouleversements consécutifs à la Révolution française. C'est l'objet de la nouvelle science de la société, fondée par Comte, qu'il appela d'abord physique sociale, puis, à partir de 1842, sociologie. À partir de 1848, dans son discours sur l'ensemble du positivisme, Comte se proposait de, je cite, « systématiser l'existence humaine par la combinaison entre le sentiment, la raison et l'activité ». Il créa dans ce but la Société positiviste en mars 1848, qui se réunissait tous les mercredis au 10 rue Monsieur le Prince. Mais la grande innovation du positivisme de Comte va se trouver dans la fondation d'une nouvelle religion qui va lui être inspirée par Clotilde de Vaux, dont vous a parlé Michel lors de la dernière conférence, qui était le grand amour de sa vie. Cette religion, qu'il appela religion de l'humanité, était censée garantir un lien fort entre les hommes et devait permettre l'établissement définitif du positivisme. Auguste Comte défend une vision résolument optimiste de l'humanité qui, selon lui, va toujours en s'améliorant. Pour cela, il est convaincu que chacun doit œuvrer dans cet unique but en mettant ses intérêts au service de la collectivité, et la morale conscienne est donc destinée à développer les penchants altruistes des hommes et à les faire prévaloir sur nos tendances égoïstes. Auguste Comte est d'ailleurs l'inventeur du terme altruisme qui apparaît pour la première fois dans le second volume du système de politique positive, et ça date de 1852. Alors, les œuvres les plus importantes de Comte sont le cours de philosophie positive, écrit entre 1830 et 1842, dans lequel il expose la hiérarchie des sciences positives et la loi des trois états. Alors, cette loi des trois états établit que toute connaissance passe obligatoirement par trois phases chronologiques successives, un état théologique, un état métaphysique et un état positif. Les deux premiers états recherchent les causes des phénomènes et le dernier état se débarrasse de l'étude des causes et n'étudie que les faits en eux-mêmes et les liens qui les régissent. Le deuxième grand œuvre de Comte, un traité là encore de 4 volumes, c'est le Système de politique positive qui a été écrit entre 1851 et 1854, dans lequel il va proposer sa vision de l'organisation sociale et politique. Le positivisme était aussi une philosophie ancrée dans l'urbanité et Paris devait jouer un rôle majeur dans la future République occidentale voulue par Comte. Ce dernier aura vécu les grands bouleversements de la capitale, des travaux initiés par Napoléon Bonaparte et la monarchie de Juillet, jusqu'aux premiers travaux du préfet Haussmann au début des années 1850. Comte eut des disciples dans de nombreux pays, en France, en Angleterre et surtout en Amérique du Sud, notamment au Brésil. Peut-être le savez-vous, je pense que tout le monde en a parlé avant, que la devise « Ordre et progrès » figure en portugais sur le drapeau brésilien « Ordem et progresso ». Après la mort du fondateur du positivisme en 1857, ses disciples continuèrent d'être liés à Paris et firent en sorte d'y perpétrer la mémoire d'Auguste Comte. Paris, par attachement symbolique autant que par conviction philosophique, a été la terre d'élection du positivisme. Elle demeure actuellement la ville où l'influence de ce courant se fait le plus sentir à l'heure actuelle. Donc, dans une première partie, je vais parler d'Auguste Comte à Paris, c'est-à-dire la vie personnelle de Comte à Paris, qui va l'emmener, en gros, de l'école polytechnique de la montagne Sainte-Geneviève à la rue Monsieur le Prince, son dernier domicile et le lieu le plus symbolique de son œuvre philosophique. C'est le 20 octobre 1814 qu'Auguste Comte arrive à Paris pour commencer son séjour à l'école polytechnique rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Seul un retour de 4 mois à Montpellier, entre avril et juillet 1816, viendra brièvement interrompre l'installation définitive de Comte dans la capitale. Le Paris romantique de l'époque suit les turpitudes de l'histoire et Comte décrit à la fin des années 1810 une ville très fortement marquée par les bouleversements politiques auxquels il assiste. Comte accueille notamment le retour de Napoléon Ier, en qui il voyait une sorte, on va dire, de moindre mal, en 1815, avec l'enthousiasme du jeune républicain qu'il est. Mais le Montpelliérain est irrémédiablement attiré par Paris, où il savoure son indépendance naissante, et dans les rues de laquelle il marche inlassablement, lors des deux jours de sortie hebdomadaires autorisés par l'école. Il s'encanaille notamment dans les théâtres, il va au théâtre Feydeau notamment, et au théâtre Français. Il se rend parfois même au bal de l'opéra lors de ses permissions, dépassant même souvent l'horaire du couvre-feu à l'école, ce qui va lui valoir un certain nombre de punitions et de remontrances à l'école polytechnique. Après le licenciement de toute sa promotion à l'école polytechnique pour insubordination au pouvoir royal en avril 1816, c'est d'abord vers les États-Unis que Comte dirige ses vues. Il voit se dessiner la perspective d'un poste de professeur de mathématiques dans une institution encore à créer, fondée sur le modèle de Polytechnique. Mais le projet va échouer, c'est donc à Paris qu'il va s'attacher définitivement. La ville semble à la mesure de son ambition naissante et tous les espoirs lui sont alors permis. De plus, ses projets d'enseignement semblent devoir se réaliser plus sûrement dans la capitale qu'en province, comme il le confirme à son ami de Montpellier, Pierre Vallat. Je cite: pour moi, je n'ai point à me plaindre des Parisiens de ce côté, on fait généralement ici beaucoup de cas des sciences et de ceux qui les enseignent. Promeneur curieux, il observe en détail les conditions sociales qui règnent à Paris, et ne peut s'empêcher de constater une misère et une pauvreté latente dans une lettre au même Vallat. Je cite à nouveau: la misère publique est énorme à Paris, le pain est fort cher et l'on craint même d'en manquer, on ne peut pas faire un pas dans la ville sans avoir le cœur brisé par l'affligeant tableau de la mendicité. Ah, combien il est révoltant lorsque tant d'individus manquent du nécessaire absolu. Paris est avant tout, depuis la Révolution, non seulement une ville qui se transforme architecturalement, le Paris d'avant les bouleversements haussmanniens, mais aussi la ville, symbole de la liberté de vivre et de se conduire comme on l'entend. Je cite à nouveau Comte, toujours dans une lettre à Vallat: de toutes les villes du monde, Paris est celle où l'on peut le plus jouir de la liberté civile. Comme le souligne le sociologue Wolf Le Peignès, je cite Wolf Le Peignès, il est sans doute avantageux de pouvoir s'exprimer sur les problèmes politiques et même de pouvoir imprimer son opinion sur eux, mais Comte place encore plus haut la liberté de se vêtir, de se nourrir, de se loger comme on le souhaite et de ne suivre en tout cela que sa fantaisie. C'est donc la possibilité de vivre à sa guise qui fixe en réalité Comte à Paris. Tandis que la révolution industrielle transforme la capitale en ce début de XIXe siècle, ses habitants changèrent non seulement leur style de vie, mais aussi leur manière de percevoir le monde. Les Parisiens étaient en extase devant le spectacle de la vie moderne et les flâneurs étudiaient la nouvelle culture des boulevards. Les gens prenaient notamment plaisir à fréquenter le théâtre, l'opéra et les nouveaux musées naissants. Des passages couverts furent même construits à l'époque aussi. Et dans ses lettres de jeunesse, Comte va confirmer cet attachement à la capitale. J'ai relevé dans sa correspondance des expressions comme, je cite, « ne point quitter Paris absolument, passer ma vie à Paris, rester à Paris », qui expriment fermement cette volonté. Paris n'est pas une ville comme les autres pour Comte, et s'il reste dépendant encore de ses parents financièrement, il affirme sans cesse son obstination à demeurer à Paris coûte que coûte. Son vœu va être largement exaucé. Donc là, on va parler un petit peu des logements qu'a occupé Auguste Comte à Paris. Alors, après les locaux de l'école polytechnique, le véritable premier logement habité par Comte fut celui de l'hôtel Richelieu, au 5 rue Neuve-Richelieu, une petite rue qui a été absorbée lors de la construction de la place de la Sorbonne. Comte y resta de 1816 à 1818, puis il déménagea au numéro 8 de la rue Saint-Germain-des-Prés, qui est aujourd'hui le numéro 36 de la rue Bonaparte, et il va y habiter jusqu'en 1823. Donc je vais vous montrer la plaque commémorative qui existe toujours, donc si vous vous baladez, ils sont trompés, hein. C'est pas 1822, j'ai vérifié, c'est bien 1823. Donc voilà, la plaque existe toujours, c'est un hôtel qui s'appelle l'hôtel Saint-Germain, qui est situé donc au début de la rue Bonaparte, à côté de l'église Saint-Germain-des-Prés. Comte a occupé donc ces deux logements, donc celui de l'hôtel Richelieu et celui de la rue Saint-Germain-des-Prés, durant sa période de collaboration avec Saint-Simon, le grand réformateur social, penseur de l'âge industriel du début du siècle, duquel il fut le secrétaire et avec qui il collabora pendant 7 ans, entre 1817 et 1824. C'est l'époque de l'écriture de ses œuvres de jeunesse, de l'écriture du plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société en 1822, et notamment de la conception de la fameuse loi des trois États. À Paris, il a là un terrain d'observation sociologique riche, un peu anachronique comme terme à l'époque, mais bon, j'ai fait un peu exprès, un terrain d'observation sociologique riche et inépuisable. Pour le futur réformateur social qu'il entend devenir, Paris est le lieu parfait où l'on peut observer et par conséquent intervenir sur les conditions sociales et les changer. Comte marche énormément et se livre à de très longues promenades qui sont avant tout pour lui des excursions intellectuelles, une habitude qu'il va conserver tout au long de sa vie, tant que sa santé le lui permet. Je cite « Je suis habitué à beaucoup marcher sans pourtant quitter Paris, dont l'ensemble me constitue un très large cabinet de travail », confie-t-il d'ailleurs à son ami le philosophe et économiste anglais John Stuart Mill en 1843. Comte est donc un flâneur, presque au sens baudelairien du terme, pour lequel Paris constituerait un vaste champ d'études. Comte quitta ensuite brièvement la rive gauche pour s'installer aux 6 rue de l'Oratoire, une rue très courte qui relie toujours la rue Saint-Honoré à la rue de Rivoli. Il resta probablement jusqu'au mois d'octobre 1825, c'est l'époque de la rupture avec Saint-Simon et de sa rencontre avec Caroline Massin dans les galeries du Palais Royal. Celle-ci deviendra son épouse et il est fort probable qu'Auguste Comte ait abandonné momentanément la rive gauche pour la rive droite sous son influence. S'efforçant de trouver un poste d'enseignant à Paris, ses vues se portent sur l'École Polytechnique, le Collège de France et la Faculté des Sciences de la Sorbonne. Ses plans ne débouchant sur aucun résultat, il songe dans une période de doute à envisager son avenir hors de la capitale, en Angleterre notamment. Son besoin de se détacher de Paris est presque aussi fort que son désir initial d'y rester. Il se confie ainsi à nouveau à Valla. Je cite « On n'a pas le temps d'être attaché à Paris, la vie y est trop dissipée, trop superficielle, l'égoïsme et la corruption trop dominants pour cela. Depuis 11 ans de séjour permanent, je n'ai formé ici aucune liaison réelle. Je suis resté comme j'étais en arrivant, avec mes affections de famille et mes amis d'enfance. » Plus j'irai, plus il est vraisemblable même que je serai forcé de m'isoler toujours davantage. Si Comte manifeste une volonté de prendre ses distances avec Paris, la ville ne le laissera jamais indifférent. Son point de vue n'est jamais neutre et plus significatif encore, il ne cessera d'y habiter jusqu'à sa mort. Restant du même côté de la Seine, Comte et Caroline Massin, devenue Caroline Comte, emménagèrent aux 13 rue du Faubourg Montmartre. C'est là que Comte voulait d'abord ouvrir son cours oral de philosophie positive, en tout cas qu'il en conçut le plan définitif. Comte et Caroline y restèrent jusqu'à ce que l'épisode cérébral, sa crise nerveuse de 1826, y soit déclaré. Il fut interné à la maison de santé d'Esquirol, à Ivry-sur-Seine, puis habita à sa sortie rue du Faubourg-Saint-Denis. En 1828, afin de se constituer un auditoire plus vaste pour ses cours particuliers de mathématiques, Comte s'installe au 159 rue Saint-Jacques, retrouvant ainsi la rive gauche et les quartiers étudiants que dès lors il ne va plus quitter. Les époux Comte restèrent 5 ans dans cet appartement jusqu'à la fin de l'année 1833. À partir du 4 janvier 1829, il y donne pour la première fois son cours de philosophie positive devant un auditoire composé d'illustres savants de l'époque, notamment Fourier, Blainville, Poinsot, Brousset ou Esquirol lui-même. Il va reprendre ce cours, après l'avoir donné dans son appartement, il va reprendre ce cours à l'Athénée Royal à partir du 9 décembre 1829. Comte rédigea également dans cet appartement le premier volume du cours de philosophie positive au printemps de l'année suivante. Conscient du besoin d'éducation populaire, engendré notamment par les événements politiques de 1830, il va ouvrir cette année-là, grâce à l'Association Polytechnique, un cours d'astronomie populaire qu'il va donner tous les dimanches pendant 3 heures dans une salle de la mairie du 3e arrondissement, rue des Petits Pères, qui correspond à l'actuelle mairie du 2e arrondissement, aux alentours de la rue de la Banque. Le couple déménagea ensuite pour habiter durant toute l'année 1834 rue d'Enfer. Il occupa ensuite des logements proches du quartier de l'Odéon, le 9 rue de Vaugirard, entre 1835 et 1837, puis le 18 rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, rue qui à l'époque correspondait à l'actuelle partie haute de la rue Monsieur-le-Prince. Poursuivant son œuvre, Comte se rapproche ensuite quelque temps du Panthéon, en s'installant au 5 rue d'Ulm. Ce sera son dernier domicile, dans lequel il va habiter entre 1838 et 1841, avant qu'il n'investisse définitivement le 10 de la rue Monsieur-le-Prince en juillet 1841. Donc je vais vous parler un petit peu de la rue Monsieur-le-Prince, du coup, et de Comte rue Monsieur-le-Prince. La rue Monsieur-le-Prince débute au carrefour de l'Odéon et se termine au 56 boulevard Saint-Michel. Elle mesure 450 mètres de long et de 12 à 15 mètres de large selon les endroits. Un décret ministériel du 9 avril 1851 lui donne son appellation définitive. À l'origine, il s'agissait d'un chemin longeant d'abord l'enceinte de Paris, entre les portes Saint-Michel et Saint-Germain, et plus tard le fossé de l'enceinte de Charles V, d'où son nom initial au XVIe siècle, de rue des Fossés Monsieur-le-Prince. Le nom de la rue, Monsieur le Prince, est dû au prince de Condé, propriétaire d'un hôtel voisin. En 1770, Louis XV acquiert à la famille de Condé le terrain occupé par l'hôtel. En gros, de la rue de Vaugirard jusqu'au carrefour de l'Odéon. C'est donc sur l'emplacement de l'hôtel du prince de Condé que fut construit le théâtre de l'Odéon, d'abord nommé Théâtre français sous le règne de Louis XVI en 1782. 5 rues, les rues Racine, Casimir de la Vigne, de l'Odéon, Crébillon et Regnard, convergent vers le théâtre et aboutissent à une vaste place semi-circulaire, la place de l'Odéon, qui dessert et met en valeur le bâtiment. Le voisinage du théâtre français attire à rue Monsieur le Prince des artistes, notamment des comédiens et des musiciens. Sur le reste du terrain, après la destruction de l'hôtel du prince de Condé, la ville fit bâtir un lotissement d'immeubles, dont celui où allait habiter Auguste Comte. Voilà, la façade du 10 rue Monsieur le Prince, début 20e, moi je date ça de 1910 à peu près. Voilà, ça peut changer finalement, bon à part que c'est plus une librairie au rez-de-chaussée, mais sinon ça peut changer. Donc le numéro 10 de la rue Monsieur le Prince fut le 12e logement parisien d'Auguste Comte, au 2e étage de cet immeuble, entre juillet 1841 et septembre 1857. Il emménagea avec sa femme, Caroline, en tant que simple locataire. Celle-ci ne resta qu'un an dans l'appartement puisque le couple se sépara avec fracas à l'été 1842. C'est ici qu'il a rédigé la fin du cours de philosophie positive et inventé la sociologie, qu'il créa la société positiviste en mars 1848, qu'il inventa le culte de l'humanité et administra les premiers sacrements de sa nouvelle religion. Cela ne l'empêche pas de continuer à découvrir Paris au cours de longues promenades, grâce auxquelles il tente de briser sa sédentarité. Autant qu'une distraction, il s'agit pour lui de véritables méditations en plein air, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La routine de ses promenades ne sera interrompue que par l'épisode de sa relation avec Clotilde Devaux, une période où il a beaucoup moins ressenti ce besoin d'errance. Il lui rend néanmoins visite régulièrement, et son trajet du quartier de Léon à la rue Payenne est prétexte pour lui à traverser, je cite, « la plus belle partie de Paris ». Par la suite, après la mort de celle qu'il considérait comme sa véritable épouse en 1846, Comte fera une habitude de se rendre à pied chaque mercredi depuis son appartement, sur la tombe de Clotilde Devaux au cimetière du Père-Lachaise, d'aller chaque samedi à l'église Saint-Paul, et, une fois par mois, d'aller profiter d'un dîner exceptionnel, le jour de congé de sa domestique Sophie Bliot, tout près de son domicile, rue de l'Ancienne Comédie. Son attachement à l'appartement de la rue Monsieur le Prince, le domicile sacré, comme il l'appelait, ne se démentira jamais. Menacé d'expulsion pour loyer non payé, Comte ne put cependant se résoudre à quitter ce bel appartement de 165 mètres carrés. Il se serait toutefois résigné à le quitter s'il avait pu conserver son mobilier afin d'être en mesure, dans un autre lieu, de pratiquer ce qu'il appelait aussi son culte intime. Toutefois, son propriétaire, à qui Comte devait tout de même près d'un an d'arriérés de loyer, consentit à le laisser vivre dans son appartement et se fia à son prestigieux locataire pour trouver les moyens de régler ses arriérés. « Il me laisse ce saint domicile, confie-t-il soulagé à son disciple le plus proche, Pierre Lafitte. » Dans une circulaire adressée à ses disciples positivistes qui le soutiennent financièrement grâce à leurs dons, Comte leur expliqua son attachement à son domicile de la rue Monsieur le Prince. C'est entre ces saintes murailles qu'il a achevé le cours de philosophie positive et qu'il a entamé sa régénération spirituelle et morale. Son loyer était particulièrement élevé à l'époque, 1600 francs, et Comte exhorta et convainquit ses disciples à, je cite, « comprendre la puissance philosophique des images et des sentiments que ces murs lui rappellent ». Le philosophe put ainsi, grâce à eux, rester dans l'appartement. Le domicile de Comte fut, conformément à ses souhaits, conservé par une exécution testamentaire, choisie parmi les disciples, en fait, juste après la mort de Comte. Ils gardèrent le domicile sacré, qui fut le siège de la société positiviste jusqu'au début du XXe siècle, et le lieu de rassemblement des admirateurs de Comte. Pierre Lafitte, le disciple dont je vous parlais tout à l'heure, créa en 1897 une société civile immobilière et acheta avec l'aide des autres disciples l'immeuble tout entier. Les schismes successifs au sein du mouvement positiviste fragilisèrent la sauvegarde de l'appartement, et c'est grâce à un positiviste brésilien, devenu délégué permanent du Brésil à l'UNESCO, Paulo Carneiro, que celui-ci fut définitivement sauvé. Il fit classer l'appartement monument historique en 1928, puis assura la pérennité et l'avenir de l'appartement en créant une association internationale en 1954, chargée spécialement de l'entretien de ce patrimoine. L'appartement est depuis la fin des années 1960 devenu un musée ouvert au public. Donc je vous invite à découvrir prochainement, vous avez un petit avant-goût ici. Ça c'est le cabinet de travail dans lequel Comte travaillait et écrivait. C'est en gros la pièce centrale de l'appartement, une très belle pièce, avec un beau parquet Versailles. Voilà, enfin, c'est vraiment une très, très jolie pièce. Les expériences personnelles de Comte en matière de logement, ses difficultés notamment à payer le loyer de la rue Monsieur le Prince, l'ont incité à se pencher sur la question du logement. Même avant que le baron Haussmann ne commence ses travaux de reconstruction à Paris en 1853, Comte condamna les intérêts financiers qui poussaient les gens du peuple à quitter les centres urbains et exigeaient qu'ils soient logés correctement. Il prône un accès démocratisé à la propriété, notamment pour les prolétaires. C'est en offrant ainsi un mode de vie durable et stable aux travailleurs que l'on pouvait aussi combattre en amont les tentatives et élans révolutionnaires que Comte réprouvait. Ce thème du logement reviendra encore longtemps après la mort de Comte chez les disciples positivistes. En 1879, dans une revue positiviste, la Revue Occidentale, l'un des plus fervents disciples positivistes, Eugène Robinet, constate la déchéance physique et morale de la population parisienne et un Paris à deux vitesses, avec au centre une ville des riches et à sa périphérie une ville des pauvres. Je cite Robinet, « En étendant à l'excès la grande ville et y appelant indéfiniment des éléments nouveaux fournis par la province et par l'étranger, le régime de la transformation immédiate anéantit l'unité de la capitale, sa continuité et sa solidarité. » De même, en y constituant des quartiers luxueux au centre et des quartiers déshérités à la circonférence, une ville de riches et une ville de pauvres, il porte atteinte à la fraternité qui maintenait jadis la cohabitation des différentes classes. Selon Robinet, les destructions haussmanniennes ont coûté cher à la population ouvrière de Paris, obligée d'être relogée loin du centre. La réorganisation urbaine, voulue par Haussmann, a de fait abouti à détruire encore un peu plus cette immense classe travaillante et souffrante, comme l'appelle Robinet, que sont les prolétaires. En 1882, le problème est de nouveau abordé par les positivistes par l'intermédiaire d'Émile Cora, toujours dans la Revue Occidentale. Ce dernier reprend le lien effectué par Robinet entre la dramatique augmentation des loyers et les transformations haussmanniennes, créant ainsi à Paris où s'opposent les riches bourgeois et notables du centre et les pauvres travailleurs des faubourgs. Plus que le comportement des propriétaires, c'est la politique générale d'urbanisation à Paris qui est remise en cause. Les positivistes furent ainsi parmi les premiers à dénoncer les effets pervers de ces énormes transformations et des conséquences qu'elles ont entraînées du point de vue social sur une grande partie de la population. Selon Cora, on a ainsi fait, je cite, « d'une ville du travail, une ville du luxe et du plaisir sous prétexte d'embellissement ». Dans le même ordre d'idées, les positivistes furent très hostiles au projet d'exposition universelle de 1889. Celle-ci engendrerait, selon Pierre Lafitte, un coût faramineux qui se traduirait ensuite par, je cite, « des chômages, des crises et de la misère pour les ouvriers, une augmentation certaine et presque toujours persistante du prix des loyers, une augmentation du prix des vivres et des objets de consommation journalière ». Continuer ce type de manifestation reviendrait ainsi, je cite à nouveau, à vouloir développer le mercantilisme des commerçants, encourager l'immoralité des fabricants, provoquer sous prétexte de progrès une production désordonnée et momentanée et porter le trouble dans les relations sociales. Pour sa part, Auguste Comte eut donc un logement principal, le 10 rue Monsieur le Prince, où sa philosophie s'accomplit définitivement et où il resta pendant 16 ans. Il est intéressant de noter que la grande majorité de sa vie philosophique s'accomplit sur la rive gauche de Paris. Pierre Lafitte y décèle une dimension symbolique et philosophique. Je cite « La nature du lieu où s'est développée la vie d'Auguste Comte n'est nullement arbitraire. Il a vécu, pensé et agi sur la colline de la montagne Sainte-Geneviève, véritablement sacrée, qui a été depuis le Moyen-Âge un centre capital de l'évolution mentale de notre espèce. C'est là que Dante vint étudier, c'est là même que médita Descartes, c'est là, enfin, que Bichat, Lamarck et Blainville ont médité et écrit. » Comte ne jure dans sa vie personnelle que par Paris. Il ne veut d'ailleurs pas quitter la capitale à quelque occasion que ce soit. La vie dans la capitale va lui être très précieuse pour développer sa philosophie, comme il indique dans une lettre à Valas en 1825. Je cite « J'avais besoin de cette atmosphère, dit-il, pour prendre tout mon développement moral. » Voilà, donc on va passer à la deuxième partie. Paris dans la philosophie d'Auguste Comte. Un autre aspect, peut-être le plus intéressant. Je pense vraiment que c'est assez capital et que c'est peu connu finalement. Alors, en 1854, Comte décrit Paris comme la métropole humaine à laquelle il est, je cite, « incorporé depuis 40 ans », un terme illustrant parfaitement cette fusion quasi physique, charnelle avec la ville. Paris était à l'époque avec Londres la plus grande ville du monde et ne cessait de s'étendre. En 1846, elle comptait en effet 1 million d'habitants. Paris n'était pas seulement la ville de cœur du philosophe ou la capitale de la France, mais devait devenir la métropole de la religion de l'humanité que Comte destinait au monde. Pour les positivistes, Paris était à l'origine, je cite, « la ville des philosophes et de la science, mais devenait désormais une nouvelle ville sainte. Elle représentait l'Occident tout entier, en ce que l'on n'était pas obligé d'y habiter pour avoir l'impression d'en faire partie. En outre, Paris était la seule ville où s'étaient agrégées des populations d'origine diverses. Elle devenait la patrie adoptive des élites qui se rassembleraient dans la ville sainte de la future République occidentale. La capitale possède la particularité de rassembler des gens d'origine très variée. Il y a finalement peu de Parisiens véritables, ce qui tendrait à souder davantage sa population et inciter à une plus grande communion sociale. Je cite « Paris qui, peuplé surtout de gens qui n'y sont pas nés, semble plus qu'aucune autre cité manquer de caractère patriotique, tend, au contraire, à devenir le seul foyer du patriotisme qui puisse exister aujourd'hui. » La puissance de Paris devra supplanter celle de Rome et d'Athènes, cités dont elle poursuit la domination, que ces dernières exercèrent jadis sur l'Occident et sur le monde. Dans une lettre à un disciple anglais, Richard Congreve, Comte estime que la religion parisienne dépassera la religion romaine. Le rayonnement de Paris devait s'étendre hors des frontières européennes, elle qui, écrit Comte à Stuart Mill, constitue un si puissant moyen d'accélérer et de consolider le progrès social, non seulement pour la France, mais aussi pour tout l'Occident européen. Voyons maintenant Paris tel que Comte l'envisageait dans un futur positiviste. Outre une politique de logement à laquelle il aspire et de laquelle on a parlé tout à l'heure, Comte veut modifier aussi les monuments de Paris dans le sens de sa doctrine du souvenir social. Le culte des morts jouait un rôle capital dans la philosophie positiviste. Il faut assurer le lien entre les générations, se souvenir de ceux qui nous ont précédés et contribuer au progrès de l'humanité. Pour cela, des actes de commémoration sociale sont indispensables. Il fallait ainsi mettre en accord les monuments historiques de la capitale et la modernité de sa philosophie. Il veut faire abattre la colonne Vendôme, notamment ce monument anti-occidental, et le remplacer par un monument qu'il considérera comme éminemment occidental en l'honneur de Charlemagne, le fondateur de la civilisation occidentale. Ce projet fut même poursuivi par la suite par les positivistes après la mort de Comte, un peu indirectement. Une statue créée par le sculpteur Louis Rocher fut érigée sous leur influence sur la place du Parvis de Notre-Dame et non sur la place du Panthéon comme cela était originellement prévu. Les positivistes estimaient en effet qu'une statue de Charlemagne au cœur du quartier latin serait perçue comme rendant d'abord hommage au fondateur de l'école publique, héritier de l'esprit romain, et non comme le représentant du féodalisme. En la positionnant devant Notre-Dame, on se trouverait ainsi en présence des deux symboles forts de l'époque moyenâgeuse si chers aux positivistes, le catholicisme et la civilisation militaire. La statue fut érigée sur le parvis en 1879. Voilà, elle figure toujours, hein, si vous voulez la voir. Autre projet voulu par contre, c'était d'enlever la dépouille de Napoléon, qu'il avait fini par détester et qu'il nommait le fatal cadavre. Il voulait enlever la dépouille de Napoléon des Invalides et la renvoyer à Sainte-Hélène. À sa place, il voulut installer le général Mallet, auteur d'un coup d'État contre l'empereur durant la retraite de Russie en 1812. Comte avait également l'intention d'implanter 2000 temples positivistes en France, chacun tourné, selon le principe de la Qibla musulmane, vers Paris, le symbole de convergence spirituelle et morale de tout l'Occident. Il voulait associer ces temples à la construction de 2000 banques, puisqu'il faisait de chaque banquier un tuteur temporel de temples positivistes, de manière à décharger les philosophes de toute activité matérielle. Ces prêtres philosophes occidentaux devaient être au nombre de 20 000 et dirigés par un chef suprême, le grand prêtre, qui devait siéger à Paris. Comte était convaincu en outre que, je cite, « avant l'année 1860, il prêcherait le positivisme à Notre-Dame comme la seule religion réelle et complète ». À l'instar de Robespierre, qui avait présidé au Panthéon en 1794 une cérémonie du culte de l'être suprême, Comte voulut se réapproprier un monument symbolique de Paris, tout en rêvant au remplacement à venir de la religion catholique par la religion d'humanité. L'éducation esthétique primait aussi dans l'avènement du positivisme. Comte voulait ainsi fonder dans chaque ville, et d'abord à Paris, des théâtres occidentaux dans lesquels des représentations auraient lieu 5 jours par semaine tout au long de l'année. La moitié des places seraient mises gratuitement à la disposition des prolétaires. C'est donc aussi dans une politique de décentralisation, ne remettant pas en cause la préséance parisienne, que se trouve l'originalité du programme politique de Comte, dont je vais vous parler un petit peu maintenant. Paris est d'autant plus importante qu'elle sera un lieu de rassemblement de la stimulation intellectuelle et des classes laborieuses auxquelles Comte veut s'adresser. Paris pouvait être ainsi le premier lieu où s'établirait, je cite, « la sainte alliance des philosophes et des prolétaires » qu'il appelait de ses voeux. Une alliance de cette nature ne pouvait s'effectuer qu'en ville, dans une concentration de population suffisamment dense. En voulant imposer la métropole contre la province et la ville contre la campagne, la pensée de Comte apparaît comme fortement marquée par un centralisme intellectuel. La capitale réunit les intelligences, elle est le centre des sciences, des arts, des idées, de l'activité humaine, notamment celle des ouvriers et travailleurs parisiens, sur lesquels il compte énormément. Comte parle ainsi d'une dictature parisienne et indique dans une lettre à un de ses disciples, Horace de Monterre, que, je cite, « la subordination des campagnes envers les villes constitue toujours la première loi de la civilisation ». Paris reste forte de sa suprématie aux yeux de Comte, même lorsque celui-ci s'absente de la capitale pour ses tournées provinciales d'examinateur pour l'école polytechnique. Comte n'était pas un homme de la campagne qui ne le stimulait ni affectivement ni intellectuellement, au contraire de la ville. Il se plaignait ainsi à Stuart Mill de s'éloigner trop longtemps, je cite, de sa chère vie parisienne. Même si parmi les autres villes françaises, Comte accorde une certaine estime à Lyon notamment, rien ne vaut Paris comme il l'écrit à son épouse Caroline Massin. En tout, plus on voit la province et moins on regrette la suprématie exclusive de Paris, plus on désire même que ce despotisme, exercé toutefois avec charité et intelligence, devienne encore plus intime et plus continu, afin de secouer cet engourdissement moral. Les Parisiens méritent réellement leur domination, avec un tout autre caractère d'ailleurs que celle exercée jadis par les habitants de Rome sur les provinciaux. C'est d'autant plus convenable que l'élite effective de la France finit presque toujours par se transplanter à Paris. Paris devra donc former le gouvernement positiviste central, et la ville possède, je cite, « l'aptitude exclusive à représenter spontanément l'ensemble de la France ». La rénovation philosophique de l'Occident, à l'aune du positivisme, se conduit de Paris, pour l'instant. Pour toute la France, Comte a imaginé 16 intendances, ce qui est à peu près l'équivalent de nos régions actuelles, comprenant chacune 5 à 6 départements. Une partie des tâches administratives serait transférée aux provinces, mais Paris n'aurait pas à en souffrir, je cite, Paris se disculperait de toute tendance à une excessive concentration en ne craignant pas de créer en France 15 grands foyers locaux qui seconderaient beaucoup la propagation du vrai mouvement réorganisateur. Au contraire, Paris, de ce fait, deviendra avant tout le centre du pouvoir spirituel dont la supériorité mentale et morale se verra définitivement accrue. Comte se préoccupe du présent comme du futur de la capitale. Un projet de livre sur Paris vit ainsi le jour au crépuscule de sa vie. Il devait s'agir d'une brochure d'une centaine de pages, tout simplement intitulée « Paris ». En octobre 1856, devant quelques-uns de ses disciples, il dévoile les 3 parties du futur ouvrage « Paris, c'est la France, l'Occident et la Terre ». Cette maxime devait illustrer le caractère universel de la nouvelle ville sainte. La brochure, que Comte considère encore en décembre 1856 comme un opuscule important, devait préciser comment Paris devait garder sa préséance comme centre de la République occidentale aussi longtemps que possible. Le positivisme tout entier se voyait symbolisé et incarné dans la grande métropole terrestre. D'après ses correspondances, Comte voulait achever sa brochure sur Paris en mai 1857. Elle devait paraître juste après l'appel aux conservateurs, mais cela engageait trop de frais typographiques de manière consécutive. Il ne pouvait pas faire paraître autant de livres consécutivement, et l'argent donc lui manquait. Sa parution fut repoussée à 1860, puis à 1862, avant que le projet ne passe à un second plan. Comte entendait en effet, je cite, « ne pas troubler le précieux chômage où je dois paisiblement préparer la partie la plus difficile et la plus décisive de ma construction finale ». Et il parlait en substance de la morale positiviste, une septième science, au-delà de la sociologie, dont l'esquisse se trouve dans son dernier ouvrage, qui paraîtra en 1856, « La synthèse subjective ». Selon Comte, Paris ne devait garder sa préséance que comme capitale de la République occidentale. Mais lorsque le positivisme aura triomphé sur la terre entière, il sera question de transplanter la capitale du monde dans une ville où l'Orient et l'Occident se rencontrent. Comte devint en effet tellement désillusionné par la superficialité et la moralité douteuse des Parisiens que vers la fin de sa vie, il soutenait qu'au troisième stade de l'histoire, l'ère du positivisme, la capitale finale de la planète humaine, comme il l'appelait, ne serait donc plus Paris, comme il l'avait tout d'abord pensé, mais Constantinople. L'abandon abrupt de Paris en faveur de la capitale de l'Empire ottoman reflétait un certain désenchantement pour Haussmann et Napoléon III. Il refusa notamment d'aller à l'exposition universelle de 1855, organisée par l'empereur. Le remplacement devait s'effectuer 7 siècles après l'avènement de la République occidentale, le temps qu'il fallait pour qu'Orient et Occident adhèrent entièrement et pleinement au positivisme. Le projet conscient de République occidentale voyait s'élaborer une nouvelle division du monde occidental en un grand nombre de petites républiques indépendantes, environ 60 à peu près, pas plus grande que la Toscane, estimait-il, mais pourtant reliées entre elles solidairement derrière la devise « ordre et progrès ». Le rôle de Paris dans ce contexte de décentralisation pouvait sembler s'amoindrir dans l'esprit de Comte, oui et non. Si Paris se déchargeait de certaines prérogatives temporelles, elle devait rester pour longtemps encore la ville symbole de l'avènement du positivisme comme nouvelle doctrine et le symbole du pouvoir spirituel pour tout l'Occident. Alors je passe à ma troisième partie, le Paris positiviste, monument, lieu et persistance de la mémoire, c'est-à-dire en gros comment le positivisme a laissé quelques traces visibles dans notre capitale. Outre l'appartement d'Auguste Comte, dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, il subsiste encore à l'heure actuelle une trace très vive du positivisme dans Paris. Les disciples se sont acharnés à faire construire nombre de statues de grands hommes qu'admirait Comte. Nous avons vu leur rôle tout à l'heure pour le choix de l'emplacement de la statue de Charlemagne. Ils créèrent de nombreux comités de patronage, initièrent ou participèrent à des souscriptions pour l'édification de monuments tels que la statue de Danton sur l'actuelle place Henri Mondor, c'est dans le quartier de l'Odéon, ou celle de Condorcet sur le quai de Conti. Ils se servirent de leur influence, notamment dans les conseils municipaux d'arrondissement, pour perpétrer la mémoire et la grandeur de la personnalité et de la philosophie du grand prêtre de l'humanité. C'est peut-être après la mort d'Auguste Comte que l'influence du positivisme se fit le plus sentir dans le paysage parisien. Comte, dans son testament, souhaitait être enterré au Père Lachaise, je cite, « près de la tombe d'Élisa Mercœur », ça c'est dans le testament d'Auguste Comte, la poétesse préférée de Clotilde Vaux dans l'actuelle 17e division du cimetière. Ne pouvant se faire enterrer auprès de Clotilde, elle aussi inhumée au Père Lachaise mais dans la première division dans le caveau familial des Maris, il fit part de cette volonté dès 1847 à Pierre Lafitte. Son souhait fut exaucé par ses disciples qui, tous les 5 septembre, se rendirent ensuite sur la tombe du fondateur. Sa tombe a été décorée en 1985 par une grande sculpture en bronze représentant Clotilde, œuvre d'un sculpteur brésilien contemporain, Henrique Batista da Silva Oliveira. Autour du maître, on remarque la présence de tombes appartenant à des disciples de sa philosophie. Ses proches, comme Pierre Lafitte et Fabien Magnin, dont la tombe est dans un très mauvais état, mais aussi Sophie Bliot, sa domestique, et des disciples plus récents, comme Auguste Gouge ou Georges de Herne. Ce carré positiviste, situé près du rond-point Casimir Perier, reste un élément de curiosité, encore visité notamment par de nombreux disciples brésiliens. Un historien, Christian Cherfis, milita pour un transfert des cendres d'Auguste Comte au Panthéon. Comte voyait dans cette construction encore récente à son époque, le Panthéon a été achevé en 1790, le premier temple de l'humanité au moment de l'avènement du positivisme. Les positivistes français furent assez enthousiastes à cette idée, mais les positivistes brésiliens s'y opposèrent farouchement, rappelant que le vœu de Comte était d'être enterré au Père Lachaise. Un transfert n'aurait été éventuellement possible qu'au moment où sa philosophie se serait imposée à Paris et dans tout l'Occident. Mais la ville, grâce à l'action déterminée des positivistes, a tout de même su trouver d'autres places au souvenir d'Auguste Comte. On inaugura le 17 juin 1885, dans le 6e arrondissement de Paris, devant le jardin du Luxembourg, une rue Auguste Comte, dans le prolongement de la rue de l'Abbé de l'Épée, dont on débaptisa la portion allant du boulevard Saint-Michel à la rue d'Assas. C'est Marcel Boll, membre positiviste du conseil municipal de Paris, qui fut à l'origine de ce changement de nom. Il fut un temps question de proposer que la rue Monsieur le Prince prenne le nom de comte qui y habita plus de 15 ans. Mais ce projet fut abandonné par les positivistes eux-mêmes qui ont enrayé leur propre demande, car il était entendu en fait que, en mémoire de ce lieu sacré où fut inventée la religion de l'humanité, cette rue ne saurait être débaptisée et disparaître à jamais du paysage parisien. Plus qu'une rue portant son nom, c'est une statue à la gloire d'Auguste Comte qui devait faire la fierté des positivistes français. À l'initiative toujours de Pierre Lafitte, un comité de patronage pour promouvoir le projet fut créé et de nombreuses personnalités en firent partie, comme Jules Ferry, Émile Durkheim, Camille Pelletan, Georges Clémenceau ou encore Ernest Renan. C'est le sculpteur français Jean-Antoine Injalbert qui fut chargé d'exécuter le monument qui fut inauguré solennellement le 18 mai 1902, place de la Sorbonne. La statue donc comporte, vous le voyez, un buste de comte, à la droite duquel on voit une jeune fille qui tient un bébé dans ses bras, c'est l'avenir de l'humanité. La jeune fille, c'est Clotilde Vaux qui représente l'humanité elle-même dans ses bras, donc le bébé qui représente l'avenir. Et sur la gauche du buste, donc à votre droite en la regardant, un travailleur manuel, puisqu'il y a une hache au pied de ce personnage, une hache. Et dans ses mains, il tient un livre. Et donc ça exprime en gros l'élèvement intellectuel du prolétaire, l'élément intellectuel du travailleur manuel. Ils sont inscrits également derrière le buste de Comte les trois devises positivistes, vivre pour autrui, ordre et progrès et patrie et humanité. L'édification d'une telle statue dénote de la renommée du fondateur du positivisme à l'apogée du mouvement. Il est à l'époque admiré par les grands penseurs de la Troisième République et son influence est à son paroxysme. Quel endroit plus prestigieux a priori pour un philosophe que la place de la Sorbonne? En fait, c'est d'abord un ultime pied de nez à l'académisme que Comte éprouvait. Parce qu'en fait, il a été rejeté par toutes les institutions et donc les positivistes ont vu un peu ça comme un pied de nez, bon, avec le concours de la mairie, mais ils ont vu un peu comme un ultime pied de nez que Comte soit devant la Sorbonne et lui tourne le dos. Au moment de son inauguration, c'était le cas, elle tournait le dos, mais en fait la statue a été déplacée dans les années 1980, c'est-à-dire au début des années 80, quand la place de la Sorbonne a été réaménagée, il y a une fontaine à écoulement permanent qui a été construite devant, et donc la statue a été déplacée et mise sur la gauche de la place. Maintenant, elle est toujours sur la gauche de la place. Et Claude Allègre, le ministre de l'Éducation nationale, dans un de ses ouvrages, regrettait même de ne pas l'avoir enlevé, puisqu'il voulait mettre plutôt une statue de Pasteur, une statue de Victor Hugo. Il regrettait parce qu'il trouvait que Comte avait détruit les sciences françaises avec d'autres, avec Berthelot notamment, et donc il a dit que voilà, il regrettait de ne pas avoir pu enlever complètement la statue d'Auguste Comte. Ça aurait été dommage quand même. Voilà, donc si le patrimoine positiviste, on l'a vu, donc rend en grande majorité hommage à Auguste Comte, l'inspiratrice de la religion de l'humanité est loin d'être en reste. Une rue Clotilde Devaux fait le lien entre le boulevard Beaumarchais et la rue Amelot dans le 11e arrondissement. À l'entrée de cette voie piétonnière, baptisée ainsi en 1978, on trouve un buste en bronze qui est dû au sculpteur positiviste brésilien Décio Villares. Alors il a été édifié dans les années 1920. Il est probable, j'ai demandé à quelqu'un qui connaît un peu le problème, il est probable que le buste ait été transféré du Brésil. Il n'a pas été construit en France, mais a été rapporté du Brésil par les positivistes brésiliens. Mais c'est au domicile de la Madone de l'Humanité que les positivistes brésiliens ont effectué leurs plus curieuses réalisations. Clotilde habitait au 7 de la rue Payenne dans le quartier du Marais. Raimundo Teixeira Mendes, le directeur de l'église positiviste de Rio, se rendit à Paris et chercha le domicile de l'égérie d'Auguste Comte. Il confondit le numéro 7 et le numéro 5 et racheta l'immeuble du 5, ancienne demeure de Mansart, le célèbre architecte de Versailles, en 1903. Il reconstitua au deuxième étage l'appartement supposé dans lequel avait vécu et était morte Clotilde. Je ne sais plus si au deuxième ou au troisième d'ailleurs. D'accord, voilà, c'est au troisième étage. Et donc à une époque, ils avaient reconstitué, plus ou moins factissement, la chambre de Clotilde Devaux.
En fait, il pensait qu'elle habitait au troisième, elle habitait au quatrième. Enfin, mais c'est pas grave.
Ah bon. Donc, l'endroit a été visité jusque dans les années à peu près 1980, l'appartement après a été remis en vente. Mais c'est surtout au premier étage que Teixeira Mendes va aménager une petite chapelle en 1905, une réplique en miniature des grands temples de l'humanité que voulait Comte pour la pratique régulière de sa religion. Chapelle de l'Humanité, qui est juste à côté. Alors là, vous avez une rue à traverser. Vous avez la rue du Parc Royal à traverser, et vous êtes devant la chapelle. J'aurais pu mettre la façade aussi, qui est curieuse en elle-même, puisqu'il y a un buste de Comte, Ordre et Progrès, Patrie et Humanité, qui sont sur les trucs, et puis un buste de Comte que vous avez en face. Là, c'est l'intérieur de la chapelle. On voit sur les murs de la chapelle une représentation concrète du calendrier positiviste, parce que dans la religion positiviste, Comte avait établi un calendrier de grands hommes auquel il fallait rendre hommage dans ce système de commémoration sociale dont je vous parlais tout à l'heure. Dans l'idée de Comte, il fallait des bustes de chacun de ces grands hommes dans les temples de l'humanité. Donc là, sur la chapelle, c'est pas de vraies colonnes, c'est des bustes peints, mais Comte voulait des bustes vraiment construits sur des colonnes dans tous les temples de l'humanité. Alors ce calendrier est une illustration de la religion de l'humanité, de ce culte des grands hommes. Frédéric II de Prusse, le mois Bichat, le dernier mois du calendrier qui est l'entrée dans l'âge positif. Et sur le dernier arc, vous avez une femme, Héloïse, de Héloïse et Abélard. Comte était assez fan de l'amour courtois, hein. C'était sa représentation idéale de l'amour, et Héloïse représentait l'amour courtois. Et elle a été choisie pour représenter le jour des femmes, parce que dans le calendrier positiviste, il y avait un jour des femmes, un jour dédié aux femmes, mais tous les 4 ans, toutes les années bissextiles, il y avait un jour dédié aux femmes. Alors on voit aussi, sur le fond, un autel, un peu sur le modèle des chapelles chrétiennes, avec, surplombant l'autel, sur un émail de Limoges, on a une représentation, là encore, de Clotilde de Vaux, un peu sur le modèle de la statue. C'est à peu près la même idée, c'est-à-dire Clotilde de Vaux en Vierge Mère de l'Humanité, en Déesse Mère de l'Humanité, avec l'avenir de l'humanité représenté par le bébé. Sur les côtés, on a, alors ça c'est assez curieux aussi, c'est qu'on a 2 plans de Paris. Sur le côté gauche, on a un plan de Paris arrêté à la mort de Clotilde de Vaux, le plan de Paris date de 1846, et sur la droite, on a un plan qui date de la mort d'Auguste Comte, un plan de Paris. C'est une preuve, une nouvelle preuve, du grand attachement des positivistes à la symbolique parisienne qui est inhérente à leur doctrine. Celui est actuellement ouvert au public, très peu. Sinon, elle est ouverte pendant les Journées européennes du patrimoine, ça fait 2-3 ans. Et sinon, pour les événements type Journée nomade, organisée par la mairie du 3e. Donc, c'est très très rare. Mais bon, on ouvre un petit peu plus à des groupes. Donc, je vais conclure sur Comte et Paris. Les traces de Comte et de sa philosophie se retrouvent donc aux 4 coins de la capitale, on l'a vu. Si Walter Benjamin voyait en Paris la capitale du 19e siècle, Comte voulait ambitieusement en faire la capitale du monde. Si son projet de politique positive n'a pas abouti, Comte a toutefois marqué la ville de son empreinte. Il fut un Parisien enamouré, passionné, attaché physiquement et intellectuellement à la cité dont il voulait faire le symbole de l'Occident. Ses fidèles, ses admirateurs, comme les chercheurs qui y ont consacré leurs travaux plus tard, ont tous eu à cœur de bâtir, de conserver et d'entretenir un patrimoine parisien riche, siège d'une pensée philosophique unique et qui marqua son époque et dont le souvenir persiste encore un petit peu aujourd'hui. Je vous remercie.
Je pense qu'il y a des questions, pour moi.
J'aurais aimé savoir quelles étaient les lectures de Comte sur Paris.
Il y a des atlas. Il lit des études, il lit notamment un livre assez rigolo, c'est La prostitution de Parents du Châtelet. Alors il lit beaucoup de choses sur l'état social de Paris, sur la misère de Paris. Il a lu Villermé aussi sur les travailleurs, tout le chapitre sur Paris. Il y a beaucoup de cartes, il y a un plan de Paris qu'on n'a pas retrouvé. Il y avait pas mal de matière pour son ouvrage en fait, donc il avait pas mal de littérature sur Paris. La littérature populaire, pas tellement, j'ai pas l'impression que ça a été... Bon, elle n'était pas encore très développée, c'était pas encore l'avènement de vraiment de la littérature populaire. Il n'était pas roman.
Il n'y avait
pas Eugène Sue, ça c'est sûr, dans sa bibliothèque il n'y a pas Eugène Sue. Il n'y a pas d'histoire de Paris à proprement parler. Il y a plus la géographie de Paris en tête, tout ce qui est autour des conditions sociales.
C'est ça, pas très partisan de lire des romans.
Bah, plutôt les anciennes, fictions, c'est-à-dire plutôt Cervantes, les épopées anciennes, épopées modernes, mais pas les romans contemporains. Il lisait peu de romans contemporains. Il y a pas mal d'ouvrages de médecine, donc je pense qu'il doit avoir une histoire de la faculté de Paris, la faculté de médecine de Paris. Les histoires des institutions, ça l'intéresse plus, mais pas l'histoire de la ville, ce qui est bizarre. Il la voit peut-être plus comme un siège d'institution que comme...
C'est vrai qu'au niveau de... donne des bonnes idées de recherche, Daniel, parce que Comte, c'est un historien autodidacte. Il fait des grandes théories sur comment c'était le Moyen-Âge, etc. Mais où sont ses sources? C'est ça qu'il faut chercher, là. Où il est allé tirer ses idées, qui parfois sont justes, mais parfois c'est un peu des élucubrations. C'est pas vraiment la véritable science de son époque. C'est tel que lui, il se l'a forgé une certaine idée à travers des lectures. Et comme probablement il lisait peu en bibliothèque. Donc, c'est sa bibliothèque.
Il marchait, mais il n'allait pas dans d'autres endroits. Il marchait dans Paris. C'était vraiment un flâneur, hein, au sens, je sais pas, des situationnistes presque. Il se faisait des itinéraires et reproduisait des itinéraires. C'est limite de la psychogéographie. Je me fais des parcours, enfin voilà, un précurseur.
Il connaît aussi le parcours du Palais Royal. Parce qu'il le dit après. Il en fait même, à certaines époques, un chantage de Clotilde de Vaux. Il dit, je vais être obligé de retourner par là-bas me promener. C'est intéressant parce que cette liberté aussi de Paris, c'est par rapport à ses parents, ce milieu provincial de Montpellier étriqué, qui déteste cette espèce de bourgeoisie renfermée, surtout avec le candidaton, le jugement.
C'est pour ça qu'il goûte vraiment une certaine liberté.
Pourquoi l'église Saint-Paul?
L'église Saint-Paul parce que c'était le lieu de baptême du fils de Maximilien. Donc Clotilde était la marraine et Comte le parrain. Et c'était pour lui un mariage symbolique. C'est aussi, selon lui, limite le début de la religion de l'humanité, quoi.
Oui, bien sûr.
C'est l'acte fondateur, c'est cette union véritable entre lui et Clotilde, chaste baiser, voilà, et ça part de là, de part de l'église Saint-Paul. Donc pour lui, c'est une signification vraiment particulière, très affective.
La chapelle de l'humanité, on dit que l'autel est la reproduction assez fidèle de l'autel de la chapelle où il y a le fonds baptismaux à l'église Saint-Paul.
C'est ça.
Ouais. Ouais. On fonde une religion, mais il faut toujours s'appuyer sur une autre. La légitimité sacramentaire est donnée quelque part par un sacrement catholique, mais détourné. Comme ce mariage, il en fait un veuvage éternel en plus. Donc le lien est éternel. Hein.
Cette religion, justement, n'a finalement pas du tout pris en France.
Non.
Et par contre, Brésil, elle a pris au Brésil. Et est-ce qu'il y a encore, à l'heure actuelle, des adeptes de cette religion?
Oui, il y en a toujours. Oui, oui. Il y a vraiment des adeptes.
Non, parce que, moi,
parce que j'en ai vu un il n'y a pas longtemps, donc je vais vous raconter un peu l'histoire.
J'ai connu Bernard Rouault, qui est un grand ami de mon grand-père. Mais j'étais petite fille à l'époque, j'ai assisté à des commémorations, etc., parce que mon grand-père m'y a emmené.
Enfin, il y a eu beaucoup de schismes dans les sociétés positivistes à cause de ça. Idéologiquement, c'est par rapport à la religion. C'est-à-dire que, par exemple, Pierre Lafitte, qui était le continuateur de Comte, il s'en occupait presque pas. C'était le directeur de positivisme. Mais c'était pas le chef de la société positiviste qui, elle, était chargée plus ou moins de ça aussi. Il y a une idée du positivisme qui naît pendant la Troisième République qui met à bas la religion. Alors que pour Comte, sur la fin de sa vie, c'était ce qu'il y avait de plus important. Il voulait développer l'autorité spirituelle et il pensait qu'il fallait développer la morale positiviste. C'est la dernière science. Alors je dis pas qu'il s'occupait plus ni de science ni de politique, mais il avait beaucoup axé la fin de sa vie à partir des années 1850, on va dire, sur la morale et sur le développement de sa religion. Il a créé un catéchisme positiviste. Dans le système de politique positive, ça institue la religion de l'humanité. Enfin voilà, la fin de sa vie est vraiment consacrée à la religion. Alors, le positivisme a été beaucoup popularisé aussi par Émile Littré, qui a fondé une revue, La philosophie positive, où on ne parle quasiment pas de religion de l'humanité. Ça dépeint plutôt les aspects philosophiques d'Auguste Comte, philosophique, philosophie des sciences, sociologie, séparation des pouvoirs. La rigueur, la seule accroche qu'il peut y avoir chez les disciples non religieux, c'est cette séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, par exemple, Gambetta en parle. Gambetta dit que voilà, Comte a été un des précurseurs de la séparation de l'Église et de l'État, puisqu'il voulait créer une autorité spirituelle en dehors du pouvoir temporel. C'est-à-dire que le pouvoir temporel, voilà, c'était une chose, et puis de l'autre côté, les philosophes prêtres, en gros, qui s'occupaient du culte, et puis les femmes qui s'occupaient de l'éducation, et les prolétaires de l'activité. Enfin, voilà, les philosophes de la raison, les prolétaires de l'activité, les femmes de l'éducation, quoi. Ça a été, je pense, bien retenu par les penseurs de la Troisième République. Par contre, l'aspect religion lui-même, le culte positiviste, la liturgie positiviste, non. Il n'y a que au Brésil que ça s'est déroulé, et ça existe toujours. Alors,
en Angleterre.
Oui, mais ça n'existe plus maintenant. En Angleterre, ça n'existe plus depuis Première Guerre mondiale. J'ai un Brésilien qui est venu au musée, qui s'est recueilli sur le lit et devant le siège de Clotilde aussi.
C'est signe de croix positiviste.
Alors je crois que c'est raison, sentiment, activité. Je crois qu'il y a trois trucs et ça, voilà. Bon, il les a fait devant moi, donc du coup, je les ai retenus.
Devant le fauteuil de Clotilde.
Mais c'était très intense. Enfin, et puis il y a encore des positivistes religieux fervents là-bas.
Combien ?
Alors, à Porto Alegre, j'estime ça à peu près une centaine. À Rio, il y en a de moins en moins. Je pense même qu'il y en a moins qu'à Porto Alegre. C'est à Porto Alegre vraiment, parce que eux, en plus, à Porto Alegre, ils ont fondé leur constitution, la constitution de l'État de Rio Grande do Sul, qui est l'État où est Porto Alegre. Ils ont fondé cette constitution sur la doctrine positiviste.
Fonder la constitution, c'est plus politique que religieux.
Oui, mais c'est plus sur l'esprit positiviste.
Et puis il y a une influence politique.
Non, c'est
l'humanisme.
Une influence politique par rapport à
Et il faut dissocier, je pense, l'aspect philosophique de la doctrine religieuse.
Mais justement, Bazilier, qui était intéressé par sa pensée philosophique, scientifique, politique, n'ont pas craint qu'elle soit entachée par son côté un peu illuminé.
Ah si. Les positivistes ont quand même pas mal édulcoré la religion, ça s'est pas trop ressenti en France, le fait que... les schismes, oui, pour le mouvement positivisme, de toute façon, je suis pas sûr que ça se serait...
L'époque était positiviste. D'une certaine façon, son positivisme scientiste, il avait dit ce qu'il avait à dire, il avait plus grand-chose à dire de plus.
Scientiste, tu vas un peu loin, c'est pas scientiste, ça je suis pas d'accord. Le positivisme n'est pas scientiste. Le scientiste, c'est le culte de la science. Il n'y a pas un culte de la science chez Kant. Il se sert de la science pour faire de la politique. C'est pas un scientiste.
Non, mais je parle de plus.
Je trouve. Mais
d'accord.
Dans son système.
Non, je suis d'accord.
Politiquement, ça a avancé, en fait.
Ah oui. Il y avait une base intéressante, mais je suis pas sûr qu'il faille forcément distinguer religion et philosophie. Ouais. Je pense que c'est pas deux choses différentes. C'est pas une illumination de Kant. C'est une religion sociale, c'est un culte social. Il n'y a pas de dieu chez Comte, il n'y a pas de transcendance. C'est une religion qui a pour culte l'humanité. C'est quelque chose qui va lier les hommes entre eux. Son éthique, c'est de rendre hommage à ceux qui nous ont précédés pour ensuite faire progresser l'humanité. Donc, beaucoup ont vu ça comme une illumination chez Comte, justement, comme un délire religieux d'un fou mystique peiné par la mort de Clotilde de Vaux. Non, chez lui, je pense que l'aspect religion, en plus, est là, avant la mort de Clotilde de Vaux, à la fin du cours de philosophie positive, il se pose déjà la question de savoir s'il ne faut pas recréer une religion qui soit différente du catholicisme. De toute façon, il rejette la théologie très tôt. Il n'y croit plus en Dieu à 14 ans. Donc il rejette vraiment la théologie. Donc on peut dire que c'est une religion. Il entend religion non pas au sens croyance, mais au sens relié. Religare, une étymologie qu'il a choisie, qui n'est pas forcément la bonne. Enfin bon, les historiens des religions se battent pour savoir d'où vient le mot. En gros, relier, c'est comme ça qu'il entend le mot. C'est-à-dire relier les hommes entre eux. Pour lui, il faut un ciment social, une espèce de glue social. Et c'est à travers le culte des grands hommes, essayer de nous trouver une histoire commune à l'Occident, qui pense pouvoir appliquer sa philosophie.
Et puis il y a le culte de la Vierge représentée par Clotilde.
C'est une icône, mais ce n'est pas une Vierge qui a enfanté. Ce n'est pas l'Immaculée Conception, donc Clotilde, elle a existé. C'est une sorte de madone. Elle n'a pas un rôle vraiment transcendant. Il n'y a aucune transcendance chez Comte.
Le deuxième versant, que Clotilde incarne beaucoup plus, c'est très important, tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'altruisme. Ce n'est pas seulement le culte des grands hommes, évidemment. Voilà, l'altruisme, c'est très important. Alors, en même temps, c'est difficile pour nous de penser, parce que ce n'est pas si original que ça, évidemment. De toute façon, le christianisme même déjà prêche l'altruisme, donc il n'est pas si éloigné de ses sources. Et puis l'altruisme... On le retrouvait à travers le saint-simonisme, enfin, je sais pas, moi, tous les mouvements émancipateurs de cette époque. Bon, en même temps, si on enlève l'idée que ça peut être une sorte de naïveté ou je sais pas quoi, c'est quand même quelque chose d'assez profond, quelque part. Quel est le débouché politique d'une pensée scientiste? Enfin, plutôt sens de compte, c'est-à-dire positiviste. Hein, c'est-à-dire, on s'appuie sur la science qui nous dit comment on va conduire la société, etc. Mais la science ne nous dira jamais comment faire le juste, c'est-à-dire quelle part je vais faire au défavorisé, qui est handicapé, qui n'est pas capable. La science ne me dira jamais quoi faire de ces gens-là. Ce qui me veut le dire, c'est justement cette démarche altruiste qu'on a tous, mais on a tous intériorisé plus ou moins l'altruisme. Ce que Comte pensait, il dit à un certain moment, et ça se rejoint un petit peu ce qu'on retrouve chez Simone Weil, la philosophe à travers Alain, etc. Elle était d'origine juive, mais elle est devenue une mystique catholique, je ne sais pas si vous connaissez Simone Weil. C'est l'idée que les instincts les plus bas ont le plus d'énergie. Donc il dit, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est l'égoïsme qui est le plus proche de la physiologie de l'homme, de l'animal, etc. Mais c'est l'altruisme qui doit l'emporter, parce que c'est l'altruisme qui est l'avenir de l'homme, en quelque sorte. Mmh. Donc tout le problème, c'est comment transformer ce qui est le plus énergétique en l'homme, c'est-à-dire l'égoïsme, en quelque chose qui est le plus spirituel. Et c'est pour ça qu'il veut faire une morale, une science, et là, il ne va jamais y arriver, quelque part. Heureusement qu'il meurt avant. Comment il va faire arriver? Parce que là aussi, quand il fait une morale, il est quand même dans une idée, enfin, peut-être pas de science, mais enfin, il est dans une idée quand même de trouver des lois qui vont pouvoir, en quelque sorte, asseoir le règne de l'altruisme. Parce que d'un certain point de vue, son altruisme, c'est resté un vœu pieux. Il ne donne pas la voie d'organisation de la société qui garantit que l'égoïsme sera étouffé par l'altruisme. Le culte aide à ça. Mmh. C'est relié et culture.
Oui.
Culture d'altruisme. C'est intéressant tout ça, parce qu'on est au cœur aujourd'hui d'un sujet. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, on veut créer plus ou moins une morale laïque, par rapport à une morale religieuse, etc., etc. Les morales religieuses qu'on voit, la dangerosité quand elles vont vers le fanatisme, hein, des choses comme ça, vers l'exclusion des autres, etc., etc. J'ai raison, les autres ont tort. Donc il n'y a pas de possibilité de créer, comme on dit, du vivre ensemble. Si on veut créer ce vivre ensemble dans une morale commune, mais cette morale laïque, ça fait longtemps qu'elle est cherchée, là, justement. Quoi. Il y avait des gens de la BAI, il y avait des gens bassés, il y avait des tas de gens comme ça, etc. Sauf qu'elle est difficile à élaborer, la morale laïque, justement. C'est l'objectif, on est d'accord? Il faut trouver les ressources après.
Le problème de Comte, c'est qu'il nie complètement l'individu. Je trouve aussi que dans ces dernières années, il était devenu tellement irascible, tellement sûr de lui. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il ne serait pas rentré dans une espèce de despotisme. Et c'est pour ça que je me dis, heureusement qu'il n'a pas développé un peu plus son système. Je suis sûr qu'il serait encore devenu encore plus insupportable qu'il ne l'a été sur la fin.
Et ça, c'est important ce que tu dis. Parce que la culture partagée, Comte, je crois qu'il l'a un peu vue. Il a vu l'encyclopédie, il a vu des choses comme ça, l'éducation du prolétaire, tout ça.
Oui.
Mais il n'a pas peut-être assez vu, effectivement,
passer vu l'individu.
Ouais. Il voulait aussi trop des individus qui soient un peu mis sous la coupe de chef, on va dire. Hein. Il a le modèle de l'école polytechnique. Il y a les élites, parce que chez Comte, il y a toujours cette idée, il y a toujours cette tension entre ce qu'il appelle l'élite et le vulgaire. Ouais. Il repousse l'individu, mais lui-même, il est extrêmement individualiste. Il est aussi très romantique, quelque part, très individualiste. Il se permet des choses qu'il n'autorise pas aux autres. Les disciples, il les aide. Il les aide, mais il les phagocyte.
C'est ses disciples qui l'aident, hein, quand même.
Oui, lui, il va aider les jeunes, il va aider aussi beaucoup. Il va, déjà avec Maximilien, et puis après, Audit Franc, enfin, il les conseille, il aime bien les...
Généreux, mais assez maladroit.
Oui, il faut penser comme lui.
Après, il rompt les amitiés aussi vite qu'il les a données. Mais...
Au moment de la révolution de 1848, est-ce qu'il y a des témoignages de ce qu'il pensait? Est-ce que vous avez dit qu'il était contre les révolutions?
Voilà, c'est pour ça qu'il l'a pris de deux manières. La révolution de 48, c'était assez ambigu chez lui, parce que il était plutôt favorable à l'émancipation des prolétaires, d'une certaine manière. Il voulait leur appui. Il avait besoin de leur appui, donner un cours d'astronomie aux prolétaires. Le problème, c'était justement la révolution. Enfin, c'était leur caractère belliqueux, et ils pensaient que justement, grâce à l'éducation, on allait pouvoir donner un socle commun et donc éviter ça. Pareil pour le problème du logement dont je parlais tout à l'heure, c'était un peu sur le même plan. C'est dire, bon, bah voilà, s'ils ont accès à la propriété, bah voilà, tout le monde aura un cadre de vie heureux, il y aura une certaine stabilité, il faut jamais perdre de vue que Comte voulait l'ordre. La révolution de 48, ça a été pour lui très ambigu. Il voyait quand même chez les prolétaires quelque chose de positif là-dedans. Mais il pensait que la révolution devait se faire dans les esprits et pas sur les barricades. Je pense vraiment que 48, ça a été la première déception vis-à-vis des prolétaires. Il comptait beaucoup sur eux. Et il pensait que ça lui échapperait, d'une certaine manière. Que les prolétaires lui échapperaient parce qu'ils étaient trop soumis à leur désir individuel, ils n'étaient pas encore assez collectifs. Et puis je pense que cette émancipation avait ce double but. Enfin, j'en discutais un peu avec Dupin, il n'est pas d'accord avec moi, mais je pense qu'il y avait ce double but, alors, d'éducation, vraiment. Une véritable envie d'éduquer, une véritable envie d'élever les gens par l'éducation. Je pense aussi qu'il y a vraiment cette volonté d'annihiler toute velléité de révolte ou toute velléité de révolution. Il a peur, et toutes les révolutions, la révolution de 1789, oui, sauf qu'à partir du moment où il n'y a pas un ordre stable, bah voilà, la révolution a en gros eu que du mal. Alors il était en même temps pour la liberté d'expression, il ne voulait pas interdire les journaux, donc il est très ambigu, Comte. Moi je pense quand même que son premier souci c'est l'ordre. C'est presque l'ordre avant le progrès, je ne suis pas sûr, ça c'est une théorie, mais...
Le progrès ne peut se faire qu'à l'intérieur d'un cadre ordonné.
Voilà, c'est ça.
Ça c'est l'anarchie.
Je pense qu'il sent, parce que parmi ses disciples prolétaires, justement, après, quand ils font la société positiviste, il leur dit, bon, c'est bien, vous adhérez, mais oubliez toutes vos tendances anarchistes, oubliez tout ce que vous avez fait avant, oubliez votre participation à 48, oubliez ceci. Et plus tard, quand la société positiviste prend un peu son envol, c'est pareil. Voilà, ils peuvent montrer que s'ils mettent de côté un petit peu, s'ils ont été un peu trop actifs dans la commune, ça se voit. Bon, bah voilà, bon, bah, s'ils adhèrent au positivisme, il faut qu'ils taisent un petit peu leurs instincts révolutionnaires.
En dehors de l'intérêt historique, disons, etc., qu'est-ce qui reste à l'heure actuelle de la philosophie de Comte et de l'œuvre de Comte ?
On pose des questions difficiles.
Qu'est-ce qu'il en reste ? Une statue ?
Justement.
Non, je plaisante. Moi, je pense pour l'éducation, pour la séparation de l'Église et de l'État, notamment, je pense que vraiment il y a une influence. La Troisième République, enfin, ça a été une doctrine quand même assez forte à cette époque. Mais plus vraiment, ouais, je pense, le côté éducation. Vous voulez quand même l'éducation pour tous, enfin, 1830, quand même. Avant, pas mal de gens, Comte a été un des précurseurs, quand même, de l'éducation populaire. Et je pense qu'il la voulait vraiment, sincèrement. Parce qu'il comptait sur les prolétaires. Donc cet intérêt pour les prolétaires. Ne serait-ce que la politique de logement. Moi, je pense que la République occidentale, d'une certaine manière, c'est préfigure un peu l'Europe. Alors, peut-être très diffus, personne ne se réclame de Comte par rapport à ça. Des gens comme Houellebecq, par exemple, disent que Comte a été un précurseur dans le sens où il a vraiment décrit ce besoin de religion et pas forcément, enfin, de peut-être une autre voie dans la religion. Il y a des idées comme ça actuellement. Il y a beaucoup de gens qui lancent des idées de religion athée, comme Alain de Botton, par exemple. Enfin, vous voyez, il y a des mouvements comme ça. Ferry était quand même un disciple de Comte, donc les lois Ferry de 1882, je crois.
Un disciple un peu éloigné. Enfin,
disciple un peu éloigné, mais disciple de Comte, de ses ouvrages de chevet, c'est Comte, le traité d'astronomie populaire. Donc c'est des ouvrages précurseurs en matière d'éducation populaire, ça, le traité de géométrie analytique, surtout le traité d'astronomie populaire. La philosophie des sciences, la sociologie, quand même l'objet sociologique, c'est-à-dire fonder une science. Ah, c'est le père de la sociologie au sens de l'objet, pas vraiment des méthodes, au sens de l'objet à étudier, c'est-à-dire la science des faits humains, l'observation des faits humains. Il voulait faire de cette science une science de gouvernement quand même. Donc, mais Durkheim se réclame de Comte et dit voilà, bah Comte a quand même fondé le mot et a fondé l'objet d'étude. Donc on peut garder ça. Ce qui est déjà pas mal. Bon, l'altruisme, mine de rien, le terme a été inventé par Comte, c'est un néologisme kantien.
On n'est pas sûr.
Ah si, si, si.
Alors, on dit que c'est un de ses profs à l'école polytechnique qui l'a utilisé. Bon, peu importe.
Ah bah moi, c'est un Anglais là qui a fait une étude assez poussée sur le mot altruisme. Okay. Apparemment, ça vient de Comte. Hein. Après, le culte des grands hommes, mine de rien, ça date aussi de cette époque-là. Ça a fondé quand même toute une série de choses au point de vue du patrimoine. Alors, il y a eu l'éloge des savants par Fontenelle avant, il y a eu l'éloge des grands hommes bien avant. Ça commençait là, mais je pense que Comte a été dans cette optique-là, dans ce culte des grands hommes, très important pour le 19e siècle. Ça a préfiguré Victor Hugo, le culte de Victor Hugo, ce genre de choses, de Pasteur, dans les manuels scolaires de la Troisième République, toutes ces vignettes qui rendaient hommage aux grands hommes. Ouais. Je pense que Comte a été précurseur là-dedans. Mmh. Donc, du coup, pour un intérêt patrimonial qui s'est éveillé à la fin du 19e aussi. Même milieu 19e pour les maisons d'écrivains. Ce sacre des grands hommes se traduit aussi par la visite des maisons, par l'entretien des patrimoines, ce genre de choses. Bon, c'est un impact effectivement qui n'est pas immédiat. On ne voit pas des statuts de Comte partout, Comte n'est pas étudié énormément à l'école, enfin, au lycée.
C'était la dernière question, est-ce qu'on étudie encore ?
J'étais au lycée il y a 15 ans encore, on en parlait de Comte. Je me souviens que c'était des notions. Donc dans la notion sociologie, il y avait Comte. Je crois même dans nature-culture, j'avais eu une référence à Comte, et dans science. Science, expérimentation, on parle du positivisme en général. Ça, c'est pour le niveau on va dire secondaire. À l'université, Jean-François Bronstein fait encore un séminaire sur Comte. Oui, donc,
surtout la philosophie des sciences.
Mais sur la philosophie des sciences. Ouais. Point de vue religieux, Michel Bourdeau qui donne une lecture. Mais voilà, c'est très mineur. Régis Debray avait fait un séminaire sur Comte à Lyon. Sur Comte, vraiment, non, il n'y avait rien au niveau universitaire, à part un séminaire.
Est-ce qu'il existe un groupe de travail, une société, des amis de Comte
L'association Auguste Comte qui gère le musée. C'est une association, en fait, pas d'amis. Amis, ça fait un peu admirateur. Mais ça fonctionne plus comme un groupe de gens qui travaillent sur Comte. Voilà. Ou de gens qui font vivre le patrimoine. Moi, j'ai plus la mission de faire d'entretenir le patrimoine de Comte, c'est-à-dire l'entretien des archives, la promotion des archives, c'est-à-dire les rendre accessibles. D'autres travaillent plus sur le scientifique, on va dire. Il y a des chercheurs qui travaillent sur Comte. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de Comte. J'entretiens le patrimoine et je m'y intéresse. J'ai pas la prétention d'être pointu sur le sujet. Il y a beaucoup de chercheurs là-bas, par contre, qui travaillent. Donc, il y a une association qui entretient le patrimoine et qui optimise un peu la recherche. Sur Comte, donc c'est encore vivant de ce point de vue-là. On organise des événements, des colloques, le musée visitable, enfin voilà.
Et il y a des thèses sur Comte.
Ah ouais. Oui, on a eu deux thèses l'année dernière, de grosses thèses sur Comte, une sur la synthèse subjective, le dernier ouvrage de Comte, donc sur la morale, et une autre sur la notion d'Occident chez Comte. C'est Tonatiuh qui est venu parler il y a quelques temps ici, qui a achevé sa thèse l'année dernière, qui était sur la notion d'Occident chez Comte. Là, on a des projets de thèse qui viennent sur les penseurs positivistes, sur les poètes positivistes. On parle de Comte dans un cycle sur le 19e dans le Collège de France. J'ai vu ça il y a deux ans. Je ne sais plus qui en parle, mais quelqu'un qui faisait un cycle pour la première moitié du 19e, un truc plutôt historique.
Au Brésil, il y a des chercheurs aussi.
Il y a des chercheurs. Alors maintenant, ils essaient de lancer un centre de recherche dans le temple de l'humanité qui existe au Brésil. Il y a un temple à Rio, mais beaucoup plus grand que la chapelle. La chapelle est toute petite, mais le temple, imaginez... la moitié de la Madeleine, à peu près. L'église de la Madeleine, donc un gros truc. Il y a des adeptes, mais il y a aussi des chercheurs au Brésil, effectivement, qui viennent des fois à Paris trouver des choses. Mais il y a un fonds d'archives au Brésil qui est important, de l'apostolat positiviste, puisqu'il y a un apostolat positiviste. Nous, on a aussi un peu ce fonds-là, parce qu'il y a pas mal de Brésiliens qui étaient à Paris, qui se sont occupés de la maison d'Auguste Comte. Donc on a un fonds brésilien aussi conséquent, mais... En français et en portugais. Les deux. Il y a une partie du fonds brésilien qui est en français, puisqu'ils étaient, la plupart étaient parfaitement bilingues. Donc il y en a qui ont écrit même en français directement, parmi les Brésiliens, mais on a les deux.